Jemku.
Premier lieu de voir la diversité des sciences théoriques. Il essaie de préciser le caractère propre de chacune de ces sciences théoriques. Nous avions vu comment il avait précisé la science première, je ne reviens pas sur ce qu'il avait dit, et nous avions terminé à propos de la physique. Là aussi, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit sur la physique. Vous souvenez que la dernière précision qu'il avait dit à propos de la physique, c'est que pour bien comprendre le type particulier de connaissances philosophiques en physique, c'est de regarder la manière dont on définit le TOSI du TOSI MNA, c'est-à-dire comment est la quidité et le logos. Comment comprendre la quidité et le logos dans cette perspective de la physique. Et c'est là où il nous rappelle qu'il y a deux manières de définir, la manière de définir le Camus et le Goncard. Alors ce sont des exemples types qu'on retrouve à travers toujours la pensée d'Aristote. Le Camus est pris dans son union avec la matière, tandis que la concavité est justement séparée de la matière. Toutes choses naturelles ne peuvent se définir sans la matière et sans le mouvement. Donc, toujours, la physique va définir comme le Camus, autosimon. C'est de cette manière-là que la physique définit. Alors, je vous ai renvoyé à ce passage du De Anima, troisième livre du De Anima, chapitre 3, 429b13. Je reviendrai tout à l'heure sur un lieu parallèle encore dans la physique. Ça va mieux de situer un peu après. Ensuite, Aristote dit quelques mots sur les mathématiques. Ça, c'est un problème très intéressant à bien étudier les mathématiques dans la perspective d'Aristote. Il y a là un problème très spécial, étant donné la place des mathématiques dans le platonisme. On voit très bien qu'Aristote a un souci, au fond, de faire une critique par rapport à Platon relativement à ce que représentent les mathématiques. Pour essayer de cerner le problème mathématique. Il ne néglige absolument pas le problème mathématique, mais pour lui, le point de vue philosophie première est au fond très indépendant de la mathématique. Autrement dit, quand vous regardez le lien entre physique, mathématique, le lien entre ces trois aspects, vous faites toujours un plan de ces choses-là. Physique, mathématique, et puis théologie, qui va appeler la théologie dans un instant, il faut voir que le lien entre la théologie et la physique est d'une manière beaucoup plus forte que le lien entre la théologie et les mathématiques. Au fond, je crois que ça semble extrêmement net dans la pensée d'Aristote. Et vous allez essayer de voir pourquoi. Alors que pour Platon, les mathématiques jouaient un rôle de métaxu, d'intermédiaire. Pas pour Platon, nous avions ce problème-là, la physique qui atteint l'opinion, tandis que pour Aristote, la physique peut être épistémée, c'est une dianoïa épistémique, c'est une dianoïa scientifique, c'est une philosophie réelle, donc il y a une pensée scientifique au niveau physique, il y a une vraie philosophie, alors que pour Platon, ça reste dans l'ordre de l'opinion. Et il appelle la dialectique, qui est la seule au sens fort, va s'unir entre les deux, il va y avoir les mathématiques. Les mathématiques jouent un rôle intermédiaire. Quand on sait la place du métaxu dans la pensée de Platon, c'est très intéressant de se rendre compte de la place de la métaxu, des métaxu dans la pensée de Platon. C'est-à-dire qu'on voit que les mathématiques jouent un rôle d'intermédiaire dans la pensée de Platon. Tandis qu'au contraire, dans la pensée d'Aristote, les mathématiques ne vont pas du tout jouer un rôle d'intermédiaire. Et alors c'est pour ça qu'il aura toujours un souci de critiquer le domaine mathématique, de critiquer et de préciser le domaine mathématique. Voici ce qu'il dit. Les mathématiques sont aussi théoriques. Donc il reconnaît la noblesse des mathématiques, qui sont une connaissance théorique. Et puis les connaissances théoriques, et comparativement aux connaissances pratiques et aux connaissances fabricatrices, sont pour Aristote plus nobles. Il me l'a dit dans le livre Grand Homme. Donc, au point de vue connaissance, la connaissance mathématique possède une noblesse analogue, semblable à celle des physiques et de la théologie. Puisque c'est une connaissance théorique. Qui dit connaissance théorique dit recherche de la vérité pour la vérité. Donc, dans la mathématique, il y a une recherche de la vérité à son niveau. Recherche de la vérité pour la vérité. Donc, c'est une connaissance théorique. Est-elle la science des êtres immobiles et séparés? C'est un problème. Donc, il ne le traite pas. Il ne le traite pas là, il le traite autre part. Pas. Ce qui est évident, c'est que certaines formes de mathématiques, certaines parties des mathématiques, étudient les réalités en tant qu'immobiles et séparés. Ceci, je crois que c'est la position qu'il a eue assez vite, si vous regardez dans la physique, nous allons lire le texte dans la physique. Et si vous regardez dans la fin de de livre des métaphysiques, mu et nu, il caractérise toujours le domaine des mathématiques d'étudier l'immobile en tant que séparé. Ou les réalités en tant qu'immobile et en tant que séparé. Voici ce passage de la physique qui est à mettre en parallèle avec celui-ci. Physique, livre 2, chapitre 2, 193b, 22. Donc, 193b, 22. Après avoir déterminé en combien de sens s'étend la nature, il convient d'examiner par quoi le mathématicien se distingue du physicien. Donc, vous voyez, nous sommes tout à fait en face du même problème, mais c'est peut-être posé d'une façon un peu différente, parce que c'est le haut mathématicien, tout physico, tout physico. C'est le mathématicien comparativement au physicien, tandis qu'ici, nous avons la physique comparativement au mathématicien. Donc, c'est l'abstrait, tandis qu'ici, nous sommes en face du concret. C'est ça? Alors, voici ce qu'il dit. En effet, appartiennent au corps physique les surfaces, solide, grandeur et point, qui sont l'objet des études mathématiques. En outre, l'astronomie est autre chose que la physique, ou n'est-elle pas plutôt partie de la physique? L'astronomie est-elle du côté mathématique, est-elle du côté physique? Ça pourrait être un très grave problème. Il serait absurde, en effet, qu'il appartient aux physiciens de connaître l'essence du soleil et de la lune, et non aucun de leurs attributs essentiels. D'autant qu'en fait, les physiciens parlent de la figure de la Lune et du Soleil, se demandant si le monde et la Terre sont sphériques ou non. Ce qu'il faut dire, c'est donc que ces attributs sont aussi l'objet des spéculations du mathématicien, mais non en tant qu'ils sont chacun la limite d'un corps naturel. Et s'il étudie les attributs, ce n'est pas en tant qu'ils sont attributs de telle substance. Vous voyez, c'est assez précis. Et c'est dans la physique, second livre de la physique, c'est assez ancien. C'est ça de précis que, de fait, le mathématicien n'étudie pas les attributs de telle substance, le mathématicien ne regarde pas les substances. Le mathématicien non plus n'étudie pas la limite du corps naturel, en tant que corps naturel. Il dira toujours que le propre du mathématicien, c'est de regarder des êtres abstraits. C'est l'expression d'être abstrait est propre justement pour Aristote au domaine proprement mathématique. Il n'emploiera pas le terme abstrait pour la philosophie première et pour la philosophie de la nature. Ce ne sera que plus tard qu'on considérera les différents degrés d'abstraction. Et d'une certaine manière, déjà Saint-Thomas. D'abord, dans ce commentaire des mathématiques, des métaphysiques, de fait, on regardera les différents aspects d'abstraction. Mais Aristote ne regarde jamais, c'est intéressant, au point de vue historique, et au point de vue attitude d'Aristote, c'est qu'il considère toujours que les êtres abstraits, ce sont les êtres mathématiques. Pourquoi? Parce que les êtres abstraits, ce sont les êtres mathématiques, parce que justement, le mathématicien ne regarde pas la substance. Et le mathématicien ne regarde pas le corps naturel. Il fait abstraction du corps naturel et il fait abstraction de la substance. Mais il va regarder au contraire les surfaces, les grandeurs et les points. Abstrait du corps, abstrait de la nature, abstrait du mouvement. Et c'est pour ça qu'il regarde les réalités en tant qu'immobile, et non pas en tant que nul. Et il les regarde séparés, parce que justement, elles sont séparées, abstraites des substances. Donc, je relis ce passage qui est très très net et qui est intéressant pour essayer de voir comment il précise ce que nous dirions, si vous voulez, le contenu formel de la connaissance mathématique comme connaissance mathématique. Ce qu'il faut dire, c'est donc que ces attributs qui sont l'objet des spéculations du mathématicien, mais non en tant qu'ils sont chacun la limite d'un corps naturel. Et s'il étudie les attributs, ce n'est pas en tant qu'ils sont attributs de telle substance. C'est pourquoi encore, il les sépare. Et en effet, ils sont par la pensée séparables du mouvement. Peu importe d'ailleurs cette séparation, elle n'est cause d'aucune erreur. Donc l'intelligence sépare et abstrait. Très curieux de voir ces expressions de être séparées et abstraire dans la pensée d'Aristote. Séparer, je crois, relève de l'aspect du jugement. C'est l'intelligence et le jugement crinelle qui sépare. Ça demain reprendra, en montrant que l'activité du jugement sépare. Aristote ne dit pas directement que c'est le jugement qui sépare. Et je crois qu'on peut le dire. Parce que la séparation regardera toujours un jugement d'ordre existentiel. Se sépare de telle ou telle chose. Tandis que l'abstraction dans la pensée d'Aristote, c'est beaucoup plus pour essayer de préciser telle ou telle détermination. Et telle ou telle détermination qu'on saisit d'une manière abstraite. Voilà comment il commence à toucher la première approche de la physique des mathématiques, en voyant que le monde physique saisit le monde du corps et du mouvement, le monde sensible et le monde du mouvement. Tandis qu'au contraire, le propre du mathématicien, c'est saisir la surface solide, grandeur et point. Mais en les étudiant d'une manière abstraite du corps naturel et séparée de la substance. Et il ajoute tout de suite, les partisans des idées, nous savons bien c'est qui les partisans des idées font la même opération sans s'en apercevoir. Et donc ça s'évolue, comme critique, ils font cette séparation mais ils s'en aperçoivent pas. Or, on doit être conscient de la séparation qu'on fait pour savoir quel degré de connaissance on se trouve. La connaissance demande qu'on soit conscient de ce qu'on connaît. La connaissance implique de l'utilité. Donc si vous êtes en physique, si vous êtes en métaphysique, si vous êtes en mathématiques, vous devez le savoir. Vous n'avez pas le droit de ne pas le savoir. Et en le savant, en le sachant, vous savez bien dans quelle direction vous allez. Vous abstrayez. Vous êtes conscient de l'abstraction. Une abstraction implique la conscience. On est conscient de l'abstraction qu'on fait. On est conscient de la séparation qu'on fait. On est conscient de ce qu'on regarde et de ce qu'on ne regarde pas. Vous voyez, c'est propre justement de la connaissance scientifique d'indiquer ce point de vue précis, de savoir ce qu'on considère et ce qu'on ne considère pas. C'est pour ça que c'est une critique assez acerbe quand Aristote dit ça. Les partisans des idées font la même opération sans s'en apercevoir. Car il sépare les choses naturelles bien moins séparables que les choses naturelles. Donc il confond le domaine de la physique et le domaine des mathématiques. Cela deviendra clair si l'on essaie de donner les définitions des choses de chacun de ces deux ordres, des sujets et des accidents. Et il revient à la même chose, c'est toujours la définition qui nous montre de la manière la plus claire le degré de connaissance qu'on possède. D'une part, l'impair, le pair, le droit, le courbe. D'autre part, le nombre, la ligne, la figure existeront sans le mouvement, mais non sans la chair, l'os, l'homme. Ces choses-là sont comme le nez calu, non comme le courbe. Donc vous retrouvez la même distinction que nous avions vue, les deux types de définition. Le mathématicien définit le courbe comme courbe. Le physicien définit le nez calu. Vous n'avez pas réfléchi là-dessus. En allant un peu loin, je vais dans cette réflexion et vous trouverez la définition exacte du partage de la physique et du partage des mathématiques. Le physicien définit comme le Camus parce qu'il implique la matière. tandis qu'au contraire, le mathématicien ne peut définir que comme le comptable, la comptabilité. Il définit de manière abstraite. Il prend la forme d'une façon abstraite. Donc, alors si vous voulez, ces choses-là sont comme le nez canu, non comme le courbe. On verra encore cette différence à propos des parties les plus physiques des mathématiques, comme optique, harmonique, astronomique, car leur rapport à la physique est inverse de celui de la géométrie. La géométrie étudie la ligne physique en tant qu'elle n'est pas physique. Au contraire, l'optique étudie la ligne mathématique, non en tant que mathématique, mais en tant que physique. Donc il y a juste le point de vue différent. Donc vous voyez que ces deux lieux sont parallèles. Vous voyez comme dans la physique, ça reste quelque chose de moins limpide comparativement à ce qui nous existait avec une espèce de très grande simplicité. Il y a une espèce de très grande simplicité qu'Aristote nous donne ici entre la mathématique et la physique. Je vous lis encore ce passage pour que vous voyez mieux toujours cette distinction entre les mathématiques et la physique, telle qu'Aristote nous la donne, dans le livre Mu, chapitre 3. Il faut lire de temps en temps le livre Mu et Nu, n'est-ce pas ? C'est un livre très important au point de vue critique. Je crois pas qu'on aura le temps de les commenter. Le livre Mu, 1078 à 22. On peut même arriver par cette méthode à d'excellents résultats. Je viens de parler de la mécanique, de l'harmonique et de l'optique. On peut même arriver par cette méthode à d'excellents résultats dans l'étude de chaque question, en faisant séparer ce qui n'est pas séparé, comme le font précisément les mathématiques. Donc le propre des mathématiques, c'est de regarder séparer ce qui n'est pas séparé. L'abstraction que fait l'intelligence. On regarde telle chose séparée de telle autre chose, c'est-à-dire séparée de la matière, séparée du sensible, séparée du mouvement, uniquement pour saisir ce que c'est que cette détermination. Et donc on regarde cette réalité séparée, mais sachant très bien que dans la réalité, elle ne l'est pas séparée. L'homme est en effet un et indivisible en tant qu'homme. Et l'arithméticien l'a posé comme une chose indivisible et cherche ensuite si quelque attribut appartient à l'homme en tant qu'indivisible. En tant que, eh bien, l'abstraction, l'aspect formel sous lequel on regarde. On ne le regarde que sous cet aspect, on le regarde en tant qu'un, sous l'aspect de l'un. Et on ne regarde pas en tant qu'homme, ainsi qu'en la chair, ainsi de suite. Voyez, le géomètre, lui, ne le considère ni en tant qu'homme, ni en tant qu'indivisible, mais en tant que solide mathématique, le corps mathématique pour Aristote, c'est-à-dire justement impliquant la quantité, impliquant le point de vue du contenu, impliquant la divinité. En effet, les propriétés qui appartiendraient à l'homme, en supposant même qu'il ne fût pas indivisible, il est clair qu'elles peuvent aussi lui appartenir à part de l'indivisibilité et de l'humanité. Oui, ce que nous appelons l'objet formel d'une science. Hein. C'est le premier moment où nous voyons cela. Nous pouvons considérer l'homme sous des aspects différents. Nous le pouvons considérer en tant qu'homme, nous le pouvons le considérer en tant qu'un, nous pouvons le considérer en tant que divisible. Donc trois considérations différentes. C'est toujours la même réalité qui est considérée, mais qui est considérée sous trois aspects différents. Alors évidemment, si on ne fait pas attention à cela, on confond la réalité considérée sous des aspects différents. Ainsi aussi, les géomètres raisonnent-ils correctement? C'est sur des êtres que roule leur discussion. De fait, leur discussion arrive. Et les objets de leur science sont bien des êtres, car il y a deux sens de l'être, l'être qui est en acte et l'être en tant que matière. L'être en tant que divisible, la quantité, et l'être en acte, qu'on considère alors pour lui-même, sa finalité. D'autre part, étant donné la distinction du bien et du beau, car le premier ne se rencontre jamais dans le domaine de l'action, car le premier ne se rencontre jamais que dans le domaine de l'action, tandis que le beau se trouve aussi dans les êtres immobiles. Les philosophes qui prétendent que les sciences mathématiques ne font aucune place ni au beau ni au bien sont assurément dans l'erreur. Le beau est au contraire l'objet principal de ces sciences et de leurs démonstrations. Donc le beau, pour Aristote, joue un rôle capital en mathématiques. Parce que le beau, c'est l'harmonie. Parce que le beau, c'est la proportion. Ce n'est pas une raison parce qu'elle ne le nomme pas pour dire qu'elles n'en parlent pas, car elles en montrent les effets et les rapports. Les formes les plus hautes du beau sont l'ordre, la symétrie, le défini. Et c'est là surtout ce que font apparaître les sciences mathématiques. Donc ce passage est très intéressant parce qu'il nous montre en quelque sorte quelle est la connaissance pour Aristote, dans la perspective d'Aristote, le prof de la connaissance mathématique. Et vous voyez, nous voyons toute l'influence pythagoricienne. Toute l'influence pythagoricienne de l'harmonie. Les mathématiques regardent avant tout le point de vue de l'harmonie et le point de vue des rapports. Et parce que ça regarde avant tout le point de vue de l'harmonie et des rapports, ça regarde avant tout le point de vue du beau. Alors que la connaissance éthique qui regarde avant tout l'action humaine va être finalisée dans le point de vue du bien. Là, il va aller. On ne précise pas ici dans ce passage, mais c'est indiqué dans ce signe. Donc après avoir situé la physique, après avoir situé les mathématiques, Aristote va situer la théologie. C'est intéressant de savoir qu'Aristote entend par théologie, vous savez, c'est un très gros problème, qui reste toujours un problème à discussion. Est-ce que la théologie telle qu'Aristote en parle est la même science que la science de l'être en tant qu'être? Autrement dit, ce passage qu'Aristote nous donne ici, comparativement à ce qu'Aristote nous dit au livre Gamma sur la science de l'être en tant qu'être, est-ce que ce sont deux sciences différentes ou est-ce que c'est la même science? Et regardez, les études d'Auban récentes nous montrent que ce problème reste encore un problème sur lequel on discute. Et je crois qu'on discutera infiniment là-dessus. On discutera évidemment parce que c'est justement des interprétations qui peuvent seules, de cette manière, montrer à la fois la diversité et en même temps la parenté qu'il peut y avoir entre les deux. Parce qu'Aristote, d'une certaine manière, ne nous dit pas explicitement, bien qu'ici, vous allez voir, il y a quand même une certaine affirmation très curieuse. Donc, la théologie, il commence par une hypothèse. S'il existe quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, les trois caractères, aideon, Akimeton et Coriston. Donc s'il existe quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, ceci relève d'une science théorique. La science théorique seule peut étudier l'éternel, l'immobile et le séparé. On comprend très bien pourquoi. Bon, puisque de fait, la science théorique cherche les principes propres de la réalité qu'elle considère. Elle ne cherche que la vérité. Tandis qu'au contraire, la science pratique et la science fabricative implique qu'on possède au-dedans de nous-mêmes le principe. Cette science qui regarde l'éternel, l'immobile et le séparé, cette science n'est ni physique ni mathématique, car la physique étudie des êtres non séparés et non immobiles. Là, il y a une petite critique au point de vue texte. Tricot dit des êtres séparés et non immobiles. Et Tricot suit là l'interprétation de Ross. Je crois qu'il se trompe. Il y a les deux textes, on peut lire l'un ou l'autre. Aristote ne dit jamais que la physique étudie des êtres séparés. Jamais. C'est absolument contraire à toute la perspective d'Aristote. Je sais très bien qu'on peut toujours interpréter. Alors on interprète ça en disant que c'est plus harmonieux par rapport à tout le reste. Ça, ce n'est pas des raisons aristotéliciennes, c'est des raisons du beau. Alors c'est tout à fait différent. C'est autre chose. Aristote, le fait, ici, cherche à préciser le domaine propre de la physique, de la mathématique et de la théologie. Alors, je crois qu'on peut dire ceci, car la physique étudie des êtres non séparés et non immobiles. C'est propre de la physique. Elle étudie des êtres non séparés et non immobiles, c'est-à-dire des êtres en mouvement. Or, les êtres en mouvement impliquent toujours la matière. Or, on est séparé à l'égard de la matière. Le mot séparé pour Aristote est toujours lié à un jugement d'existence, et donc toujours lié à la réalité physique, en tant qu'elle est liée à la matière. Les êtres physiques sont des êtres composés. Si ce sont des êtres composés, ce ne sont pas des êtres séparés. Et il y a l'opposition constante dans Aristote. Donc, je crois qu'on peut dire ceci. La physique étudie des êtres non séparés, non immobiles. Les mathématiques, au contraire, étudient des êtres immobiles, mais inséparables de la matière. Mais séparés par l'abstraction. Mais antérieurs aux deux, il y a quelque chose qui regarde justement l'éternel, l'immobile et le séparé. La science première étudie ces êtres immobiles et séparés. Il appelle ici science première. Cette science est première parce qu'elle est antérieure à la physique et aux mathématiques. Si elle est antérieure à la physique et aux mathématiques, Elle est donc première, dans le sens le plus fort, antériorité selon l'ordre de nature. Pas antériorité selon l'ordre génétique, mais antériorité selon l'ordre de nature. L'antériorité selon l'ordre de nature, c'est que la théologie ici, il appelle science première, comme dans le livre Gamma. Mais toutes les causes premières sont nécessairement éternelles. Surtout les causes immobiles et séparées, car elles sont causes de ce qui, parmi les choses divines, tombe sous le sens. Oui, c'est très précieux. C'est le Decello qui est présent. Dans le Decello, vous savez, la conception d'Aristote, c'est que les corps célestes sont des choses divines qui tombent sous les sens, que nous pouvons voir les astres. Les astres, ce sont des réalités divines qui, de fait, ne sont pas séparées de la matière, qui ne sont pas séparées du mouvement, puisqu'elles ont le mouvement, mais elles ont le mouvement circulaire. C'est le mouvement circulaire qui nous permet de comprendre le divin dans le sens. Le divin dans le sensible, pour Aristote, dans sa perspective à lui, le divin dans le sensible, c'est le mouvement circulaire. Alors c'est bien ce qu'il nous dit ici, vous voyez, c'est une chose très très curieuse que nous verrons dans le livre Lambda. Mais toutes les causes premières sont nécessairement éternelles, surtout les causes immobiles et séparées, car elles sont causes de ce qui, parmi les choses divines, tombent sous les sens. Ces causes séparées et immobiles sont causes du mouvement circulaire, sont causes du mouvement des astres. Donc, alors après qu'il a dit ça, il a montré que de fait, cette science théologique qui regardait l'éternel, l'immobile et le séparé, s'il existe, hein, il a commencé par l'hypothèse, s'il existe quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, nécessairement, la science qu'il considère, c'est la science théorétique, et la science qui considère cet éternel, immobile et séparé, ne peut être que la science première. Pourquoi ? Parce que toutes les causes premières sont nécessairement éternelles. Donc, si cette science considère ce qui est éternel, c'est la science première. Vous voyez comment Aristote montre que la théologie qui considère l'éternel, c'est nécessairement la science première. Alors ici, il arrive à la conclusion et nous allons revoir de nouveau, si vous voulez, le parallèle. Donc, il y a trois philosophies théorétiques. La physique, les mathématiques, la théologie. Et je l'appelle théologie, car si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette fousie immobile et séparée. Et il dit fousie. Vous voyez que le mot fousie, c'est le mot ousia, sont souvent pris l'un pour l'autre. Hein. Quand, de fait, Aristote parle des réalités. Donc il dit fousie, immobile et séparée. Si la science la plus haute, donc, et c'est la science la plus haute, et elle doit considérer par le fait même le genre des êtres les plus élevés. Donc voyez bien, je relis, si je l'appelle théologie, car si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette fousie immobile et séparée. Et c'est la science la plus haute, et cette science la plus haute doit considérer le genre des êtres les plus élevés. Donc, si les sciences théorétiques sont les plus hautes, les plus nobles, la théologie est la plus haute, la plus noble des sciences théorétiques. Vous voyez bien toujours ce souci de hiérarchiser les connaissances. Hein. Nous avions vu ça au début du livre Grand Homme, où Aristote hiérarchisait progressivement les sciences. Il y avait au point de départ de l'échelle la science pratique fabricatrice. Puis nous avions les sciences pratiques de l'action. Puis nous avions les sciences théorétiques, et parmi les sciences théorétiques, la théologie. Donc la théologie se situe au sommet de toutes les connaissances. Encore une fois, selon ce que nous dit ici Aristote. Alors est-ce que c'est un Aristote tout à fait premier, encore proche de Platon, et qu'après Aristote a changé ses conceptions? Vous voyez tout ce qu'on peut dire. Hein? On voit très bien, il faut prendre ce texte tel qu'il est, avant de pouvoir essayer de voir si de fait Aristote a changé d'idée. Ce texte est très net. Nous voyons que la théologie considère nécessairement les êtres éternels, immobiles et séparés, et considère les causes de ces êtres, c'est-à-dire les causes immobiles et séparées. Alors on pose tout de suite l'objection. si la philosophie première est universelle, vous l'avez dit dans le livre Gamma, si la philosophie première est universelle, comment peut-elle traiter d'une réalité singulière? Ce qui considère l'universel ne peut pas regarder la réalité singulière. Toujours été l'aporie, un des apories majeures d'Aristote. Est-ce que la même science peut considérer l'universel singulier? Ou est-ce que de fait, il y a deux sciences, une science singulier, la science de l'universel? C'est la manière d'Occam. Occam dit ça avec beaucoup de netteté quand il dit qu'il y a la science de l'universel qui est la logique, et puis il y a la science du singulier qui est la science empirique. Occam dit ça au nom d'Aristote. Aristote aurait sans doute dit que ce n'était pas du tout sa position. Parce que Aristote pose tout le temps la question, est-ce que la même science peut regarder l'universel et le point de vue d'une réalité singulière? Alors voici la réponse. S'il n'existe pas de substance autre que celle considérée par la physique, la physique est la science première. Dans Aristote dit ça également dans la philosophie. C'est pas le lieu qui vous donnerait, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a la même affirmation. S'il n'existe pas de substance autre que celle que considère la physique est la science première. Normal, que c'est la nature qui serait donc la réalité la plus réalisée. Mais s'il existe une substance immobile, la science de cette substance est première. Que nécessairement, la substance immobile est antérieure à la physique, est antérieure à la nature. Et alors, il ajoute, et elle est universelle parce que première. Alors, ceci, c'est très important à souligner. Donc, 1026 à 30. Catholou, auto, aussi proté. Donc, et cette science est universelle parce que première. Donc, Aristote montre que cette science est déterminé s'il existe une substance immobile. S'il existe une substance immobile, il existe une biologie. Et si cette science immobile existe, donc il existe une biologie, et cette biologie, parce qu'elle est science première, est universelle. Donc le caractère universel de cette science est inféré à partir du caractère tout à fait premier de cette science. Et je crois que ça, c'est très important comme passage. Hein. Si on veut réfléchir un peu à ce que représente cette manière de raisonner et d'essayer d'unir le point de vue de l'universel et le point de vue du singulier. Vous voyez qu'Aristote, dans sa réponse, ne parle pas de l'universel. C'est très significatif. Il ne dit pas, oui, cette science est universelle, mais elle regarde les réalités singulières. Pas du tout. Aristote, pour lui, la science regarde toujours une réalité singulière. Elle regarde une réalité existante. Alors, s'il existe une substance immobile, il existera donc quelque chose qui est au-delà de la physique. Il existera donc une science particulière qui sera la science de cette réalité première, de cette substance immobile, et on l'appellera biologie. Cette science, parce qu'elle est première, est universelle. Donc le caractère universel est déterminé à partir même de ce caractère premier. Je crois que c'est important à saisir. Nous y reviendrons à propos de, justement, d'essayer de préciser ces différents points. Mais retenez bien celui-là, méditez-le, parce qu'il en vaut la peine. Et ce sera à elle, dit-il, de considérer l'être en tant qu'être. Et son si est si, et l'état, u par comme ça, est homme. C'est-à-dire ce qui appartient à l'être comme tel. Alors, je précise, parce que je crois qu'il faut bien préciser ce passage, je vous tiens pour voir les déterminations, toujours en vue de comprendre, est-ce que la science de l'être en tant qu'être est-elle pour Aristote la même que ce qu'il appelle la théologie? Ou y a-t-il deux sciences différentes? Une science commune qui serait une science dialectique, ce que dit Hobbes, ce serait une science dialectique, et la théologie, ça a été le vœu d'Aristote, mais elle n'a jamais dit. Alors, Hobbes ramène tout à ce fait de dire la science de l'être en tant qu'être, c'est une dialectique, et la théologie n'a jamais existé. Donc, il montre bien qu'il y a une distinction fondamentale entre la science de l'être en tant qu'être et la théologie. Alors, si je regarde attentivement la réponse d'Aristote, l'objection est très bien posée. Si je regarde donc attentivement la réponse d'Aristote, Aristote commence à dire tout simplement, si la foule est la réalité première, tout se ramène à la foule. Si la foule n'est pas la réalité première, mais qu'il existe une substance immobile, la substance immobile n'est pas la foule, hein, puisque la foule est essentiellement le principe du mouvement. Donc s'il existe une substance immobile, nécessairement, la science de cette substance sera science première. Or, on a vu précédemment que la science de cette substance immobile était théologie. La théologie a été dite science première. C'est le caractère propre de la théologie. Donc, cette science sera la science première, et cette science première est universelle, catholique. Elle est vraiment universelle parce qu'elle est première. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui est premier, ce qui est principe, peut être à l'origine d'une multitude et peut-être peut comprendre le point de vue de l'universel. Et ce sera, elle, de considérer l'être en tant qu'être. Parce que cette universalité sera l'universalité la plus grande puisqu'elle est proche de ce qui est premier, ce sera la science de l'être en tant qu'être. Donc nous retrouvons bien le livre Gamma. Et cette science de l'être en tant qu'être devra étudier le CSI. Le CSI de l'être, nous avons vu que c'était le caractère propre de la science de l'être en tant qu'être de considérer le CSI, et ce qui appartient à l'être en tant que tel. L'état, il part comme ça, et homme. Donc ce qui appartient à l'être en tant qu'être. Tous les attributs qui regardent l'être en tant qu'être. Voilà ce que devra considérer cette science qui considère la substance immobile. Donc vous voyez que dans un texte extrêmement dense, encore une fois, à quelle date est ce texte ? Comparativement aux autres textes, justement là-dessus, on peut toujours discuter. Mais ce passage reste un passage extrêmement précis. Donc nous voyons, pour résumer, nous voyons qu'Aristote, dans ce début du livre, Epsilon, nous montre le caractère propre de ce que représente cette science première, cette science de l'être en tant qu'être. Il montre la différence de cette science de l'être en tant qu'être avec la physique et les mathématiques. Puis il nous parle de la théologie. Et parlant de la théologie, il revient à la science de l'être en tant qu'être. Alors, il ne dit pas plus, vous voyez, quels sont les liens exacts entre la théologie et la science de l'être en tant qu'être. Aristote ne nous dit pas, mais il nous montre que la théologie, c'est de regarder cette substance immobile. C'est le propre de la théologie. À partir de là, Aristote va étudier l'accident. Ça, nous verrons la prochaine. Il y a là toute une étude extrêmement importante, je serai bref parce que ça nous a tiré, c'est moins important pour nous au point de vue métaphysique, tandis que je crois que ce début de ce livre était très important pour bien préciser ce que représente la science de l'être en tant qu'être et de la théologie. Et aussi, il réfugie la philosophie. La philosophie va mourir dans la morale, elle va se réfugier dans la morale. C'est dernier refuge, d'une certaine manière, après Kant, où il y a la métaphysique a reçu le coup d'assommoir, alors il n'y a plus que le point de vue du côté moral. Ou alors le côté artistique chez Nietzsche, vous voyez. Et au fond, on voit très bien les deux refuges. C'est très intéressant de savoir que c'est les deux refuges, le point de vue moral ou le point de vue artistique. Et que chez les existentialistes, les deux vont être bloqués. Et c'est le dernier refuge. Parce que la pensée est vacillée, elle a été chassée par Kant de la métaphysique, alors on dit à part de Kant, c'est une métaphysique possible. Ben, tout dépend. Quelle métaphysique Kant fait-il la critique ? Est-ce que Kant a saisi la métaphysique aristotélicienne ? Si Kant n'a pas saisi la métaphysique aristotélicienne, sa critique ne porte pas, qu'elle porte quelque chose qui se dit métaphysique, mais qui n'est pas la métaphysique que nous l'appelons. Il regarde une métaphysique qui n'est pas du tout celle-là. Traditionnellement, dirait, nous savons très bien que la métaphysique que Kant attaque n'est pas du tout celle qu'Aristotélicienne. Il n'a pas saisi ce que c'était. Il y a une coupure. Vous voyez ? Alors je crois que c'est toujours la même chose, et qu'il faut essayer de saisir ce qu'il critique et de voir au-delà. Revenir à quelque chose de plus. Comme Kant, d'un point de vue-là, nous sert énormément, tout à fait. Parce que Kant exige de revenir à une source plus profonde que celle dont, de fait, avant lui, on partait. La critique est toujours une exigence d'aller plus loin. C'est ça qu'il ne faut pas avoir peur de la critique. C'est une exigence d'aller plus loin, une exigence de purification. Et donc de rechercher la source tout à fait fondamentale et première. Pour qu'à partir de là, nous repartions, ça ne s'arrête pas à cette source, il ne faut pas s'arrêter à la source, mais nous repartions pour essayer de comprendre l'itinéraire philosophique. Il y avait encore des questions.
Vous passez dans les post-psychologiques qui arrivent à Moçambique, les financistas essayaient d'avoir des masques. Donc, est-ce que vous passez dans les post-psychologiques
qui sont les post-psychologiques? Vous devez, pour reprendre ce point de vue, quand vous êtes en face, vous direz pourquoi le fixe n'a pas de sens? Oui, et très bien. Donc, vous voyez, c'est au point de vue grammatical ou au point de vue logique. Peut-on justifier par un point de vue grammatical et un point de vue logique le jugement d'existence? Je ne crois pas. Mais là, vous tombez la chose. Pourquoi Kant s'arrête-t-il? Il s'arrête à la notion existence et être, qui est une grande première part. Mais alors là, évidemment.
Sixième cours.
Le point de vue de la philosophie de la nature, le point de vue des mathématiques et le point de vue de la théologie. Et j'avais souligné la dernière fois un passage très important où, de fait, nous voyons là, dans le livre Epsilon, comment il fait le lien entre la théologie et le point de vue de la science de l'être en tant qu'être. C'est un problème qui reste sur lequel on peut discuter, puisque de fait, le livre Epsilon, ça dépend un peu de la date du livre Epsilon, mais qui est quelque chose d'extrêmement important à bien souligner. La seconde partie du livre Epsilon, c'est sur le point de vue de l'accident. C'est très bref, c'est très intéressant, surtout à regarder en parallèle avec ce qu'Aristote dit dans le second livre de la physique. De fait, dans le second livre de la physique, Aristote traite du hasard et de la fortune, que représente le point de vue du hasard et de la fortune, et c'est le point de vue, justement, de ce qui arrive accidentellement. Donc il faut bien faire attention, quand Aristote parle ici de l'être accidentel, il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle l'accident qui se distingue de la substance. L'accident qui se distingue de la substance, de fait, a une fluidité. Tandis que l'être accidentel, celle que nous allons voir maintenant, n'en a pas. Vous voyez, alors c'est toujours une cause de confusion parce que c'est le même mot et on fait des confusions terribles entre les deux. Comment dire, on ne comprend absolument pas ce qu'Aristote veut dire en parlant de ce qui arrive accidentellement. Aristote va montrer, donc, dans cette seconde partie du livre Epsilon, qu'on ne peut pas avoir une science de l'accidentel. Et donc, que l'accidentel, c'est ce que le philosophe ne peut pas saisir. Une connaissance spéculative ne peut pas considérer l'accidentel, mais l'accidentel existe. C'est très intéressant parce que ça nous fait comprendre toujours cette marge qui est de l'ordre de l'irrationnel. Autrement dit, on veut saisir la marge irrationnelle du réel. Le réel n'est pas adéquat au notre. Et c'est une manière nouvelle pour Aristote de faire comprendre comment la science dépend de la réalité et non pas la réalité de la science. Je vais oublier. Face à Platon, il veut nous faire comprendre que Platon, du reste lui-même, disait. Parce que pour Platon, la cause errante, qui était la cause matérielle, était en dehors de la dialectique. Donc si la cause errante, qui est la matière, est en dehors de la dialectique, nécessairement, le point de vue de la dialectique n'est pas adéquat à l'être réel. Mais la dialectique est adéquate à ce que représente l'être éternel. Et le point de vue de tout ce que représente la cause errante, la matière, est quelque chose qui n'a pas d'intelligibilité. Aristote va plus loin dans sa recherche de l'intelligibilité, puisqu'il reconnaît que ce qui est mu peut être objet d'une partie de la philosophie de la nature. Il va nous montrer que dans cette réalité de ce qui est mu, il y a un certain mouvement qui échappe à la philosophie. C'est le mouvement dit accidentel. Et donc, le terme accident doit se comprendre ici comme ce qui est mu accidentellement. Alors, c'est dit d'une façon beaucoup plus claire, c'est pour ça que je vous renvoie à la physique, Ces livres sont beaucoup plus clairs dans la physique, et ici Aristote ne fait dans ce livre donner un point de vue critique. Alors le point de vue critique présuppose évidemment déjà toute la théorie de la physique. Si on veut vraiment comprendre ce qui est dit ici, il faut se référer donc au second livre de la physique, où Aristote montre la différence entre le hasard et la fortune. Le to automaton et apotuken. Une distinction importante physique dans la philosophie d'Aristote, le point de vue du to automaton. Donc le to automaton, c'est ce qu'on traduira ordinairement par hasard. Tandis qu'au contraire, ce qui arrive, le apotuken, c'est le point de vue justement de ce qui est la fortune. Lié à la bonne fortune. Vous voyez, j'ai la bonne fortune de rencontrer quelqu'un que je n'avais pas prévu. J'ai la bonne fortune de découvrir un trésor voulant de faire creuser tel point. Alors c'est la bonne fortune. La bonne fortune, à cause du fait, est toujours liée, de fait, est toujours liée à l'action pratique. Autrement dit, à cause du test, la fortune, la bonne fortune, c'est lié à l'intention. C'est ce qui est en dehors de l'intention, de l'activité pratique. J'ai l'intention de faire ceci, c'est quelque chose au-delà. Et c'est pour ça qu'Aristote dira que le taux automaton est plus bas, plus étendu. Il a une extension plus grande que le point de vue du à cause du test. Le à cause du test est compris à l'intérieur du automaton. Le hasard est beaucoup plus bas. Le hasard est en dehors de mon activité pratique. C'est en dehors de moi. C'est ce qui arrive complètement en dehors des choses prévisibles, des choses que je ne peux pas prévoir. C'est le taux de... Donc il a une extension plus grande. Et Taïon, il a une extension plus grande.